Lire et faire lire, au cœur de la grande cause qu'est la lecture, une émission animée par Nicolas Trottoin.
Animée par Nicolas, où on a un micro maintenant, c'est super. Donc sur la thématique lire et faire lire, au cœur de la grande cause qu'est la lecture. Donc les invités pour cette table ronde, nous avons Catherine Clouscar, qui est élue à la mairie de Colomiers. Alors je vais dire tous les l'intitulé, hein. En charge de l'éducation, la parentalité et l'accueil des loisirs éducatifs. Théo Armani, qui est à côté d'elle, qui est aussi à la mairie de Colomiers, en charge du projet éducatif de territoire de la ville de Colomiers. Cécile Cornaglia, bon, qu'on ne présente plus. Donc, lire et faire lire national. Hélène Lacassagne, qui est vice-présidente de la Ligue de l'enseignement. Voilà, et donc il y a Dominique Fassou aussi qui va arriver, qui est un peu en retard, qui m'a envoyé un message, qui va arriver d'ici une dizaine de minutes, qui est chef de file de l'éducation nationale de la cité éducative du Grand Mirail à Toulouse. Et donc cette table ronde est animée par Nicolas.
Voilà, donc moi je suis secrétaire général à la Ligue de l'enseignement de la Lozère, vice-président en charge de la culture sur l'Union régionale. Pas encore à la région, mais ça va pas tarder. Non, je plaisantais. C'est pour vous détendre, mais je vois que vous êtes un peu endormi là. Hein? Va falloir se réveiller. On compte sur vous. Donc merci aux invités. On a une petite discussion tout à l'heure, voilà, qui était très riche et très intéressante. J'espère que cette table ronde va l'être aussi. Le principe de cette table ronde, en fait, c'est une émission de radio qui est actuellement enregistrée, qui sera rediffusée sur les ondes lozériennes, parce qu'on a besoin de culture en Lozère. Pas d'agriculture, mais de culture, simplement. Et aussi au niveau régional, après. Donc, il y aura un montage sonore, et puis je renverrai au niveau national pour vous dire quand est-ce que ce sera diffusé sur les ondes. Le principe, c'est vraiment une table ronde. Donc, c'est d'interagir. Donc, pour que tout soit enregistré, il faut parler dans le micro. Donc, je vais me déplacer. Chaque fois, vous pouvez intervenir auprès des personnes et des questions que vous avez envie de poser. Hein. Ça va être assez général. On va rester sur, bien sûr, le livre et la lecture, tout simplement parce que c'est la question qui nous est posée, lire et faire lire au cœur de la grande cause nationale qu'est la lecture. Peut-être dire que depuis une journée et demie, vous planchez sur les questions, vous échangez, vous regardez, vous découvrez. Que dire peut-être que finalement un livre, c'est à la fois un compagnon, c'est un lieu où l'on peut se retrouver pour vivre des aventures, comme on l'a vu ce matin, ce qui nous a été expliqué. C'est aussi voyager dans sa tête et aussi avec ses yeux. C'est trouver des solutions, parfois. C'est comprendre la vie, éprouver des émotions et des moments que l'on partage et qui nous font grandir. Même nous qui avons un certain âge, on continue de grandir grâce aux livres. C'est une nourriture. Les nourritures terrestres, c'est ça de Gide. C'est tout cela et tellement plus. Lire, c'est aussi regarder le monde autrement. Vous l'avez vu hier soir avec la petite forme, donc le tarot des étoiles qui vous a été présenté. C'est contempler, c'est interagir, c'est apprendre à se connaître à travers une histoire, une image. Et cela passe par tous les sens. Toucher, regarder, sentir, écouter. Il y a des livres que l'on écoute, les livres que l'on regarde, ceux que l'on sent, ceux que l'on imagine écrire aussi peut-être un jour. C'est bien la place de l'association Lire et faire rien lire, l'accompagnement que fait la Ligue, et puis le travail qui est fait au quotidien par tous ces animateurs, ces bénévoles, mais c'est aussi le travail qui est fait dans les médiathèques. C'est le travail qui sont faits à l'école de la République, puis dans d'autres écoles aussi, tout au long de la vie. Mais tout ça, c'est une organisation générale et qui dépend aussi de partenariats, de partenaires comme les collectivités territoriales. Et la question qui va vous être posée, chers invités, c'est, par exemple, à vous, madame, quelle place vous accordez au livre, à la lecture dans les politiques publiques aujourd'hui. Alors Colomiers, bon, c'est un peu à part, hein. il me semble. Non ?
Ville de 40 000 habitants avec 28% de logements sociaux en métropole toulousaine. Ça donne un cadre. Et après, on essaie de mettre en place des politiques publiques où l'égalité des chances est un enjeu majeur. Donc, c'est vrai que la lecture, l'accès au savoir, l'accès à des compétences qui vont servir tout au long de la vie est un enjeu primordial. Donc c'est vrai que en tant qu'adjointe à l'éducation et à la parentalité aux loisirs éducatifs, c'est vrai que l'éducation a une place importante et privilégiée dans notre équipe municipale, dans le sens où c'est le premier budget municipal. J'ai vu qu'il y avait un côté financier. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir aussi. Les moyens, c'est ce qui accompagne l'ensemble des politiques publiques qu'on va mettre à disposition de l'école, du péri et de l'extrascolaire, des associations, du territoire.
Très bien. C'est aussi des structures que vous financez et du personnel. Sur Colomiers, je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent autour de ces questions-là.
Avec une volonté politique en plus très ancrée, c'est que nous limitons la délégation de services publics et que l'ensemble des politiques éducatives directement en charge de la collectivité sont portées par les services municipaux. Que ce soit les structures comme les médiathèques, les conservatoires, les structures péri extrascolaires, la restauration scolaire, qui est aussi une façon d'accéder à une certaine culture, aussi sont portés par des services municipaux.
D'accord. On a parlé tout à l'heure à table de votre projet d'éducation artistique sur votre territoire. Comment vous l'avez mis en œuvre ? Parce que vous êtes beaucoup aussi sur les questions du temps extrascolaire, périscolaire.
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a la volonté municipale, c'est aussi de contractualiser toutes les actions qu'on met en place, et c'est vrai que on s'est inscrit dans le programme d'éducation artistique de l'éducation nationale, et voilà, on a contractualisé avec l'inspection de circonscription, et il y a un travail qui est fait, mais là Théo pourra en parler mieux que moi, entre le responsable en charge du PEDT, la conseillère.
Alors le PEDT, peut-être dire ce que c'est.
Projet éducatif de territoire.
Qui est signé par qui?
En fait. Est signé par la ville, le rectorat et la préfecture et la CAF maintenant.
La CAF, d'accord.
En tant que financeur principal. Donc le responsable le coordinateur du projet du PEDT, la circonscription, c'est-à-dire la conseillère pédagogique, notamment sur tous les aspects culture, et les responsables de structure, pour travailler donc en lien avec les élus. On travaille, on décline des axes culturels qui vont être déclinés sur le plan opérationnel en partenariat avec l'éducation nationale et toutes les structures de la ville.
On en parlait un petit peu, on m'entend bien ? On a parlé un petit peu à table, effectivement, si on se positionne sur un plan politique de territoire, le fait de mailler des grands dispositifs politiques comme le projet éducatif de territoire et, alors, c'est un dispositif organisé par l'Éducation nationale, le programme d'éducation artistique et culturelle, la fusion de ces deux dispositifs permet d'accompagner les enfants tout au long d'un parcours, tant sur les temps scolaires, péri et extrascolaires. On peut aussi intégrer dedans les séjours de vacances, les centres de loisirs, et ainsi d'avoir des approches croisées autour de la lecture, mais d'autres objets artistiques et culturels, sur l'ensemble du territoire pour tous les publics. Ça, c'est la force d'avoir effectivement un PEDT fort et des liens rapprochés avec l'éducation nationale. Et donc, pour le territoire de Colomiers, si je ne me trompe pas, on a 16 écoles. Voilà. On a autant d'accueils de loisirs périscolaires et on a 4 gros centres de loisirs. Et tous travaillent dans cette même volonté. Et effectivement, le projet éducatif de territoire, il s'articule autour. Alors, deux grands objectifs qui, pour moi, feraient sens à la lecture, c'est ouvrir et nourrir le bagage culturel des enfants. Et on sait que la lecture, le livre, c'est un objet important pour ouvrir le bagage culturel des enfants, et aussi un objectif fort sur la mixité et l'inclusion de tous les publics. Et le livre est aussi un média pour favoriser tout ça. Donc fort de ces deux grandes politiques, on développe beaucoup d'actions effectivement sur le territoire autour du livre. Mais je réinsiste, puisque notre élu du territoire est présent, vous l'avez dit, on en a parlé longuement à table, la question des financements et des moyens. ça nécessite un portage politique fort. Et le territoire columbien a la chance d'avoir des élus engagés sur ces questions-là de politique éducative qui permettent de développer des moyens et des articulations conséquentes. Voilà.
D'accord. Bon, ça, c'est récurrent hein, sur tous les territoires. Nous, on voit bien en Lozère, même sur des petites villes, comment ces questions ne sont pas traitées. Alors, on peut dire qu'il y a des problèmes budgétaires, qu'il faut quand même un peu de fiscalité, hein, c'est-à-dire il faut un peu de monde quand même, voilà, pour payer l'impôt et puis que cet impôt soit... Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même une connaissance, je pense, de l'élu qui est indispensable, une lecture aussi qu'il peut faire de son territoire et des besoins pour pouvoir... impulser ces politiques. Après, ça représente combien de centaines de milliers d'euros sur votre budget, si vous avez un ordre d'idée ? C'est pas une question de piège. Hein. Quoique.
Quoi préciser ? Quand je disais que c'est le premier budget municipal, on a un budget municipal de l'ordre de 70 millions d'euros. Les actions éducatives sont le premier budget de fonctionnement. Donc, on est aux alentours de 20 millions d'euros.
Sur l'éducatif.
Sur de l'éducatif.
D'accord.
Et je mets à part tout le champ social. C'est-à-dire que on a des comme on a ce programme ce PEAC, ça veut dire qu'on a des médiateurs culturels qui interviennent sur le temps scolaire avec des projets spécifiques, notamment un intervenant du conservatoire qui accompagne un dispositif qu'on appelle le dispositif d'âme sur une école qui relève d'un quartier politique de la ville, qui est intégré maintenant à un dispositif cité éducative, qui intervient auprès d'une cohorte qui accompagne toute une cohorte de classes d'âge pendant 3 ans sur l'accompagnement à de la musique. Alors là, on n'est pas sur de la lecture, mais avec la musique, ça permet de faire aussi de la transversalité sur tous les autres apprentissages. Devenir élève, mais aussi l'accès à d'autres cultures. Au travers du jazz, on peut avoir l'accès à des cultures afro-américaines et à de l'histoire et des supports aussi de lecture différemment, parce qu'on fait aussi de la rythmique. Et quand on parle de lecture, c'est aussi les sens, le rythme, la voix. Voilà, bon, c'est tout un travail... Bon, là, je vais pas en parler parce que c'est plus le champ des professionnels. Mais c'est vrai que c'est effectivement une sensibilité, je pense, d'un territoire. Et les élus, on doit être sensible à son territoire. Et ensuite aussi un petit peu de technicité pour aller chercher des financements, des dispositifs qui vont permettre, de faciliter les mises en œuvre sur le territoire. Alors, on parle de projets éducatifs de territoire, de projets éducatifs culturels et artistiques. De cités éducatives, ce sont autant de dispositifs qui permettent de mobiliser des moyens financiers, que ce soit de la CAF ou de l'État ou de l'Éducation nationale, pour abonder des projets. Donc on rentre dans un côté technicité, parce que maintenant le levier pour les collectivités territoriales, le levier de l'impôt, il reste très mineur, de plus en plus minime. Et donc on est toujours en recherche à répondre à des appels à projets, et aller chercher des financements avec des critères objectivés et ensuite des critères de réalisation. Il va falloir montrer qu'on met bien en œuvre. Donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des techniciens pertinents voilà, qui vont nous aider à monter ces projets et à les réaliser sur le territoire.
70 millions d'euros, budget de la commune de Colomiers, 20 millions d'euros, ce qui est énorme, hein. Pour un ordre d'idée, parce que peut-être que ça vous parle pas, le budget du département de la Lozère, c'est 140 millions d'euros. Voilà, donc ça veut dire deux villes comme Colomiers, surtout le département. Le budget de la ville de Mende, c'est 9 millions d'euros en fonctionnement. Hein. Donc c'est sûr que après on n'a pas autant de population non plus sur les territoires. Donc malgré tout, il y a un fonds commun, c'est-à-dire c'est pas proportionnel au nombre d'habitants. Hein, voilà. On sait que les politiques publiques autour du livre ont été un peu absentes durant ces dernières décennies. C'est un peu dommage. Alors pas partout en France, mais quand même, il y a quand même chez nous, je le dis sous couvert de Magali qui est bibliothécaire, qui a très peu de professionnels en fait sur notre département. Donc c'est beaucoup de bénévoles qui gèrent les bibliothèques ou les dépôts. On a très très peu de BM1, puisque vous savez c'est classé BM1, BM2, BM3, BM4. On a beaucoup de BM3, voilà. Après, c'est des regroupements aujourd'hui, mais il manque vraiment de professionnels. Vous en parliez.
Oui, la question des moyens, elle est essentielle, et on le voit bien quand on parle de grands ensembles comme Colomiers ou particulièrement au département de la Lozère. Après, il y a d'autres outils qui permettent, on pense, de mobiliser effectivement une approche efficace de la lecture et du livre. C'est la transversalité de territoire, d'où cette dimension de projet éducatif de territoire, et d'activer les forces vives et les amener à travailler ensemble sur le territoire. On peut faire des choses avec peu de moyens, beaucoup plus de choses avec des moyens conséquents, évidemment. Mais on peut voir. Donc, j'en profite au passage pour remercier Madeleine Bonnen, de notre représentante locale, de lire et faire lire sur la ville de Colomiers, puisque
on va en parler. On va en parler un petit peu après sur votre relation avec lire et faire lire et comment les choses peuvent se mettre en œuvre. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire demain? Parce que c'est aussi l'intérêt de cette table ronde. C'est qu'est-ce qu'on peut débloquer? Il y a quand même énormément. Il y a 22 000, je crois, bénévoles aujourd'hui sur lire et faire lire en France. C'est un maillage qui grossit d'année en année, c'est beaucoup d'actions, c'est aussi des questions administratives qui ont été abordées ce matin par Cécile et par l'équipe, qui nous préoccupent. Comment on rentre dans l'école, comment on travaille avec l'éducation nationale dans le temps scolaire, puis hors temps scolaire. Voilà. La question de la couverture assurance, etc., etc. Et des moyens après, bien sûr, pour les actions. Peut-être revenir, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est les transports que vous mettez en œuvre. Ça, je trouve que c'est assez...
Oui, mais c'est-à-dire que on a eu la chance de construire une médiathèque à Colomiers, et on sait qu'il y a des lieux qui sont dédiés, des lieux sportifs, des lieux culturels qui sont dédiés, qui sont parfois loin. Pas forcément en lien toujours avec les habitations, les villes sont étendues, et pas toujours à proximité des écoles. Donc effectivement, pour se libérer de la problématique du transport, on a des bus dédiés, des bus municipaux qui sont dédiés au transport scolaire et au transport des enfants hors temps scolaire. Et le but, c'est aussi d'amener les enfants sur les structures, hein, municipales, sportives ou culturelles, et que les parents viennent les chercher à la fin du temps de prise en charge, à la fin de la journée, pour que les parents deviennent aussi des usagers de ces structures-là. C'est-à-dire décloisonner parfois les visions que l'on peut aller. On ne va pas qu'à l'école, on va à la médiathèque, on va à la piscine, on va au conservatoire. Et du coup, Théo Armani et les équipes des animateurs sont chargés aussi de cibler les enfants, de travailler avec les enfants pour qu'ils s'inscrivent sur ces activités-là, et pas qu'on retrouve toujours les mêmes enfants. Alors les parents ne sont pas prescripteurs, ils ne savent pas ce qu'on propose. On propose d'abord aux enfants et ensuite on sollicite les parents pour que les enfants puissent être récupérés sur les structures. C'est-à-dire que on ne cible pas toujours les mêmes enfants, mais bien qu'on ouvre les mixités de l'ensemble des publics. D'ailleurs, que ce soit pas les publics déjà avertis qui soient usagers des activités.
Voilà, concrètement, pour illustrer ce que dit Madame Clouscar, on organise des parcours périscolaires en fin de journée sur la médiathèque Pavillon Blanc de la ville de Colomiers. Ces fameux bus viennent à la fin du temps scolaire récupérer des enfants pré-ciblés, étant éloignés de la médiathèque, étant éloignés du livre. On leur propose d'aller passer 1h30 le soir à la médiathèque, et les parents viennent immédiatement récupérer les enfants sur la médiathèque. Un petit indicateur qui nous avait satisfait à l'époque, on avait observé que le nombre d'abonnements à la médiathèque de certains parents avait un petit peu cru après être allé faire une expérience de visite à la médiathèque en fin de journée.
D'accord, donc c'était aussi dans le cadre d'une stratégie de reconquête de certains publics.
Hein. Tout à fait. Permet de découvrir des lieux qu'ils n'auraient pas forcément découverts si un moyen municipal n'avait pas été mis en place.
D'accord. Peut-être. Alors on profite de cette petite intermède pour accueillir donc Dominique Fassou, c'est ça, bonjour, qui est chef de file de l'éducation nationale de la cité éducative du Grand Mirail à Toulouse, et qui nous expliquera un petit peu après comment la grande cause nationale livre et lecture s'intègre dans ce dispositif de la cité éducative du Grand Mirail. Peut-être une question.
Oui, pas une question, une réaction. D'abord, enfin, merci vraiment pour cet exposé sur le travail qui est réalisé dans votre collectivité. Moi, je le trouve à bien des égards tout à fait exemplaire par la place qu'il donne à l'éducation en général, par la place qu'il donne à la culture dans le projet éducatif. C'est un projet éducatif qui n'est pas sans culture, et ça c'est quand même une chose intéressante et importante, avec la place qui est donnée à la lecture dans ce domaine-là, et la place qui est donnée à la médiation. C'est-à-dire que, hélas, trop souvent, dans la relation que l'éducation populaire ou qu'une structure comme Lire et Faire Lire, on peut entretenir avec les collectivités ou avec les services de l'État, on est dans des relations qui nous placent en position d'être seulement prestataire. Et ça n'est pas notre métier. Et ça n'est pas notre façon d'être. Notre façon d'être, c'est l'éducation populaire. Notre raison d'être, c'est l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est un aller-retour, un va-et-vient permanent entre la pensée, la réflexion collective et l'action collective. C'est entre le penser et l'agir. Entre l'interrogation collective qu'on a du projet pour le bien commun. Et ça, c'est pas être marchand de quelque chose. C'est être vraiment dans la co-construction et dans la recherche de cette co-construction. On a tellement à apprendre de collectivités. Nous, militants de l'éducation populaire, dans la relation que vous avez avec vos habitants, avec les habitants de votre territoire, dans la façon dont vous gérez votre territoire. Pardon, les collectivités ont à apprendre de l'éducation populaire parce que ce lien tellement permanent avec les habitants, ce travail avec et non pour, le fait que nous soyons qu'on acquiert par ce lien social formidable une expertise, ne serait-ce que par un réseau associatif très fort, une implication sur un territoire dans son ensemble, tout ça fait que le partenariat entre la collectivité, Lire et Faire Lire, la Ligue, d'autres acteurs de l'éducation populaire, tout ça construit du commun et tout ça fait des politiques publiques, un, qui sont durables et deux, qui sont articulées aux besoins du territoire et de ses habitants. Et donc, vraiment, merci pour ça, bravo, chapeau. Moi, je suis béate. Franchement, ce que vous en décriviez et cette capacité à mettre en relation aussi des dispositifs, comme l'a dit monsieur, entre le PEDT, et le PEAC ou le 100% AC, je sais pas par quelle porte vous êtes entré dans le, mais qu'importe, dans cette politique publique là, le fait d'associer aussi ces choses là, c'est important. Et je voudrais dire, alors vraiment favoriser cette co-construction et cette co-construction avec Lire et Faire Lire et avec cette expertise des bénévoles lecteurs qui sont en relation aussi, qui dans le cadre, qui sont en relation avec les habitants, qui sont en relation avec les enfants, qui ont une pratique importante, mais qui sont aussi formés par des réseaux, travailler sur ces axes-là me paraît être vraiment important et répondre à une urgence. On disait ce matin qu'il y a quand on est dans une période d'urgence sociale, on est dans une période d'urgence démocratique, et quand on est à la fois dans une période d'urgence sociale et d'urgence démocratique, on est dans une période d'urgence culturelle. Et donc, être capable tous ensemble de travailler les bénévoles, les militants de l'éducation populaire, les collectivités pour répondre à des enjeux qui sont aussi profonds et aussi importants, c'est essentiel et vraiment, vous nous donnez du baume au cœur, là.
Je suis contente d'un enthousiasme. Parce que je crois que les élus, là, si on doit avoir une qualité, c'est pouvoir être justement des médiateurs et être un peu opportuniste quand il y a des propositions qui sont faites. C'est vrai que avant tout, ce sont des rencontres. Il y a des rencontres, il y a des objectifs politiques et des rencontres. Moi, Madeleine... Voilà, je remercie toutes les bénévoles de Lire et Faire Lire parce que c'est l'association qui a le plus de bénévoles qui intervient dans notre programme, dans notre projet éducatif de territoire.
Alors, de quelle façon ils interviennent et quelle relation vous tissez avec cette association, enfin avec cette représentation et ces bénévoles?
Alors, on a là aussi, on a contractualisé, on a conventionné avec Lire et Faire Lire. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a une association de Lire et Faire Lire qui est installée sur Colomiers, dont Madeleine est la présidente, ce qui permet justement, ça a permis de conventionner.
Relais, elle est relais.
Responsable, mais elle est relais, mais ça a permis de travailler la convention avec elle et du coup de partager les objectifs
qu'avait la ville en termes justement d'accessibilité à la lecture et d'intégrer lire et faire lire à notre projet éducatif de territoire qui s'adresse aux 0-18 ans. Donc les bénévoles de lire et faire lire interviennent sur toutes nos structures petite enfance et enfance jeunesse de la ville. Les structures petite enfance, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, sur du temps pour la mairie péri et extrascolaire, sur les maisons citoyennes, sur les centres de loisirs. Ce sont des bénévoles qui sont citoyennes de Colomiers, qui sont donc impliquées dans leur ville. C'est la moindre des choses que quand il y a des bénévoles volontaires qui portent des valeurs, qui sont en accord avec les valeurs de la ville, de les faire participer. On est dans du gagnant-gagnant, dans du partage. Ça relève du bon sens, me semble-t-il. C'est une évidence. Moi, je les remercie d'être autant impliqués. Genre, c'est une force vive dont les enfants de la ville bénéficient. Genre, je crois qu'on ne peut que travailler dans ce sens-là. Et ensuite, on met en lien. Elles connaissent, du coup, les responsables de structure. Elles connaissent les attentes. Elles connaissent les publics. Et du coup, les responsables de structure les connaissent aussi. Il y a tout un travail qui a été fait sur des partages de lieux, des partages d'objectifs, parce que tout ça, ça nécessite des mises en condition. Et là, c'est le relais de la phase opérationnelle. Derrière, l'élu, il est juste là pour dire, ce sont des envies qui se rencontrent et des objectifs, et on met en place.
Très bien.
Juste, moi, je rajouterai un petit élément que je trouve très intéressant dans le travail avec lire et faire lire et qui, je pense, participe à la réussite de l'action. C'est ce que tu commençais à dire, Cathy, c'est cette notion d'autonomie. C'est-à-dire que c'est pas que descendant, c'est pas que la ville, l'association. C'est qu'il y a une médiation, une mise en relation des lectrices et des responsables de structure et des animateurs qui vont auditer ensemble les besoins des publics sur chaque site et déterminer un peu un plan de comment ça va s'organiser. Et ça, c'est important, cette autonomie et cette souplesse, ce qui fait que je pense que les lectrices sont bien dans les structures, les enfants sont bien, et l'encadrement des services périscolaires sont bien aussi. Voilà, moi, c'était juste pour ajouter cette notion d'autonomie.
Merci. J'aurais voulu avoir une intervention des bénévoles de lire et faire lire qui ont d'autres expériences avec leur collectivité, des témoigner sur... qu'est-ce qu'ils voudraient témoigner ? Mais c'est pas les yeux. Non, personne ne témoignait pour avoir un petit témoignage d'une autre collectivité. Non.
Moi, je peux peut-être témoigner par rapport aux échanges qu'on a avec les différentes coordinations départementales de lire et faire lire. C'est vrai que je rejoins Hélène sur l'exemplarité de ce qui se passe à Colomiers et du coup des interactions aux différents niveaux et dans les différents dispositifs possibles mis en œuvre autour du livre. La place du bénévole, elle est diverse et c'est ce qui fait aussi la richesse des territoires. Mais le bénévole peut intervenir sur les différents temps de l'enfance, de la structure petite enfance en général jusqu'au début du collège, et il va être associé de manière plus ou moins rapprochée aux objectifs éducatifs et en collaboration plus ou moins étroite aussi avec les professionnels de chacune de ces structures. Mais c'est vrai que cette notion de médiation autour du livre et de collaboration avec les professionnels, elle est essentielle et c'est ce qui fait aussi que les bénévoles se sentent bien dans leur bénévolat. C'est-à-dire que il y a une connaissance de la structure, il y a une connaissance que ce que vous disiez aussi sur Colomiers, des publics, il y a de la co-construction de projets, tout en ayant une liberté aussi d'intervention, ce qui est aussi un point fort du bénévolat de lire et faire lire, c'est-à-dire que le bénévole vient avec ce qu'il est, ce qu'il a, tout en étant dans une démarche républicaine et laïque, qui fait partie de la charte du lecteur, mais il vient avec ce qu'il est, il vient avec ce qu'il a envie de partager avec les enfants, il est à l'écoute des enfants et des responsables de structure avec lesquels il est en relation hebdomadairement.
Cécile, dans les enquêtes que tu as pu faire et dans les retours que tu as des collègues sur le terrain, c'est quoi les relations, c'est quoi les besoins et les relations qui sera tissées avec les collectivités pour toi?
Je pense qu'il y a déjà énormément de relations. Alors c'est vrai que là, il faut améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, mais le travail des coordinations départementales, des coordinateurs de la Ligue de l'enseignement et des UDAF, des unions départementales, des associations familiales, ont cette relation de proximité avec les collectivités qui fait que le bénévole l'IRÉFER-LIR n'est pas un prestataire et a vraiment un rôle d'acteur éducatif, a un rôle de médiateur du livre aux côtés des professionnel, tout en gardant sa casquette bénévole, mais il a vraiment un rôle dans ce continuum autour de la lecture. On en parlait un peu à table tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des rencontres, des échanges, des partages de projets, des présentations du rôle de chacun et de la complémentarité de chacun qui peut peut-être améliorer les relations dans certaines collectivités. Donc c'est vraiment c'est des mots qui ont été déjà évoqués, mais des partenariats, de la co-construction, des partages d'objectifs qui fait que on arrivera à être mieux identifié des différents partenaires et à trouver une place plus importante pour les bénévoles de l'IRÉFER-LIR dans les communes et dans les différentes structures de ces communes.
On parlait tout à l'heure du rôle des professionnels. Donc c'est vrai qu'une collectivité est là, des professionnels dans les médiathèques. Comment peut se tisser un lien entre les bénévoles de l'IRÉFER-LIR et vos professionnels? Est-ce qu'il y a des outils qui sont créés? Est-ce qu'il y a des tentatives qui sont faites chez vous? Comment vous travaillez ces questions-là? Parce que les bénévoles, bah, ils vont et viennent, hein. C'est pas toujours les mêmes, et puis bon.
Alors, on a une chance, c'est qu'on a la cohorte de bénévoles est assez stable, elle s'enrichit tout le temps. Donc, ça veut dire qu'elles prennent du plaisir, j'espère. Enfin, Madeleine pourra en parler davantage et pourra le dire. Mais, effectivement, nous, l'intervention des bénévoles de l'IRÉFER-LIR ne vient pas en concurrence du temps de l'apprentissage de la lecture sur le temps scolaire, ni du travail de nos professionnels de la médiathèque. Les professionnels de la médiathèque peuvent proposer un support, des outils, des livres, une mallette pour mettre à disposition des bénévoles de l'IRÉFER-LIR. Ensuite, on a partagé aussi l'intervention de cette association avec l'éducation nationale. Et on a travaillé aussi sur les temps de transition, notamment le retour en classe à 14h, avec nos animateurs et les enseignants des écoles autour d'un temps de lecture, avec une co-intervention pour que effectivement il y ait un passage de relais au travers de la lecture, avec une lecture loisir détente qui va vers la lecture, vers les apprentissages de l'école, ce qui permet à chacun d'être dans un continuum, mais chacun à sa place. Et comme ça, il n'y a pas de rivalité, mais on est bien dans une complémentarité. Le livre devient un objet de transition de tous les moments et de tous les acteurs de l'éducation.
Merci. Peut-être une intervention de Madeleine qui peut nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait au quotidien.
Oh là, alors là, c'est une grosse colle.
Elle ne sait pas ce qu'elle fait en fait au quotidien.
Je fais un peu l'interface entre l'IRÉFER-LIR, les lectrices et la mairie. Je suis l'interface entre les lectrices et la médiathèque. Je suis l'interface entre la librairie qu'on a à Colomiers, la préface et les lectrices, puisque avec l'IRÉFER-LIR, on fait des activités avec.
Alors cette interface, c'est quoi exactement?
Bon. Pardon. Voilà. Disons que je suis la responsable de l'IRÉFER-LIR à Colomiers. Donc, quand on nous demande d'intervenir, comme le forum des assos à Colomiers, quand il se fait, donc on participe. À la médiathèque, il y a une nuit de la lecture à laquelle on participe maintenant depuis 4-5 ans au moins.
Et ça, c'est où cette nuit de la lecture? Dans la médiathèque?
À l'intérieur de la médiathèque, oui, c'est la médiathèque qui organise et qui demande des participations. Donc, tous les ans, on fait une participation. On fait des lectures dans la médiathèque. Voilà. Chose qu'on fait pas le reste de l'année, parce que la médiathèque a ses bibliothécaires. Ça nous permet de mettre un petit pied dans la médiathèque. C'est un petit peu difficile, mais on finira bien par y arriver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce qu'on fait? On fait tellement de choses.
C'est presque un temps plein, en fait. Elle n'est pas salariée à la ville? Pas encore?
Force vive.
Force vive. Un autre témoignage, peut-être?
Ah, Nicolas. Pas présentement, mais ça viendra peut-être. Merci.
Non, ouais, un petit peu. Ben oui, c'est pour vous pousser un petit peu à participer, quand même. Pas nous laisser tout seul, puisque normalement, c'est une table ronde. Donc, voilà, c'est de participer. On vous a dit qu'on venait d'accueillir aussi Dominique Fassou, donc chef de file éducation nationale de la cité éducative du Grand Mirail. Alors, c'est quoi une cité éducative? Parce que nous, la cité éducative, en fait, c'est l'ensemble de la Lozère. Donc, expliquez-nous, là, parce qu'on est un peu paumé, en fait.
Alors, bonjour, et désolé pour mon retard. Donc, c'est déjà une très bonne question. Que sont les cités éducatives? Et c'est par ça que je voulais commencer. Alors donc c'est une expérience qui a été lancée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'éducation nationale en septembre 2019. 80 cités éducatives ont été labellisées sur le territoire national français. Les cités éducatives, c'est un fonctionnement basé sur un triumvirat, l'éducation nationale, et c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Concrètement, sur les territoires, ils sont représentés par les préfectures et les villes. Sur Toulouse, ça adjoint la métropole. Donc, c'est un fonctionnement à 3 ou à 4. Donc, c'est assez nouveau. C'est apprendre à fonctionner, faire fonctionner ces 4 grandes entités nationales, fonctionner dans une cohérence, une alliance. Et on a 3 ans pour mettre en œuvre un plan d'action qui a été élaboré pour obtenir le label cité éducative. Alors cité éducative, c'est au sens grec du terme, c'est-à-dire faire cité. Hein, on n'est pas dans la cité dans le sens de banlieue, parce que c'est parfois ce que j'entends. C'est vraiment dans le sens de faire cité. Donc 80 cités éducatives ont été labellisées, dont celle du Mirail, qui est la plus importante sur le territoire français. 45 000 habitants, 12 500 élèves, 25 écoles, 3 lycées, 6 collèges. Et donc cette expérimentation a été lancée avec un budget conséquent. Et donc nous avons 3 ans pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions, dont évidemment avec des axes forts qui sont conforter le rôle de l'école, favoriser les mixités et les mobilités. Et tout troisième axe qui est très à la mode en ce moment, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire imaginer des fonctionnements totalement différents, sortir des sentiers, imaginer, qui va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, madame, imaginer des fonctionnements différents, être dans l'alliance. Et c'est comme ça qu'on fonctionne sur la cité éducative du Grand Mirail. Alors nous avons véritablement démarré en janvier 2020, deux mois et demi après le confinement, mais ça nous a pas empêché d'exister. Alors évidemment, nous avons répondu à d'autres objectifs dus au confinement, et l'axe pur de la lecture est venu un peu plus tard. Mais pendant le premier confinement, puisqu'on parle comme ça, on parlera dans les livres d'histoire de premier, deuxième ou troisième confinement, lors du premier confinement qui était le plus,
le 17 mars 2020,
voilà, qui était le plus dur, le plus difficile, grâce au réseau des cités éducatives, nous avons recueilli un maximum de livres, d'éditions comme Okapi, livres pour jeunesse, et nous avons distribué, nous avons fait des livraisons par camion entier sur toutes les structures du Grand Mirail, les médiathèques, les associations, les écoles, les jeunes, pour permettre justement à tous ces jeunes qui étaient, tous ces enfants qui étaient dans des situations compliquées, d'avoir accès aussi à la lecture. Donc ça a été la première action importante de la cité éducative. Nous avons soutenu, et nous soutenons cette année, l'association Lire et faire lire sur un projet, sur un réseau d'écoles en lien avec la médiathèque Henri Desbal, sur un projet lié à la lecture, un artiste aussi, des artistes, et nous les soutenons financièrement, parce que il faut le dire, c'est aussi le nerf de la guerre, hein. Donc ils ont besoin de notre appui. Ils sont financés aussi, aidés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et notre but, c'est de travailler évidemment de plus en plus avec cette association Lire et Faire Lire, que nous découvrons. Moi, j'ai assisté à un retour d'un travail fait avec des élèves sur un réseau d'écoles l'an dernier au mois de juin à la médiathèque Henri Desbal, et c'était assez remarquable dans l'oralité, dans aussi la transposition d'œuvres plastiques par rapport à la lecture. Et il y avait pour la première fois aussi, c'est ce que j'ai vu, c'était une grande victoire, des papas sont venus, parce que souvent les mamans accompagnent les enfants sur ces projets, et notre but, c'est de travailler avec les papas, et nous avons vu quelques papas à la médiathèque, et c'était une grande victoire. C'était un mercredi après-midi, c'est pas évident d'avoir les papas parce que bon, ils travaillent ou ils ont d'autres priorités. Donc ça, c'était un objectif que nous avons atteint, et nous souhaitons cette année à nouveau soutenir le nouveau projet sur la cité éducative du Grand Mirail. Alors, entre-temps, une autre cité éducative sur les quartiers nord de Toulouse, les quartiers prioritaires, a été labellisée. Elle a démarré en septembre, et là, nous avons un autre projet lecture fort avec un autre organisme. Ne vous en déplaise, je vais le citer, c'est la FEB, que j'expliquerai parce que c'est important. Mais notre objectif, c'est, nous l'avons expérimenté sur la cité nord, c'est de lui donner un champ encore plus important, et d'associer d'autres partenaires, et dont notamment Lire et Faire Lire, parce que nous allons avoir besoin de bénévoles. Alors ce projet, c'est
parce que je vais vous couper, parce que j'ai plein de questions en fait qui me viennent. Oui. Pourquoi avoir créé des cités éducatives au Grand Mirail ?
Alors, déjà, pourquoi avoir créé les cités éducatives ? C'est parti d'un rapport qui avait été initié par un ministre de la ville, Monsieur Borloo, je ne sais pas, un rapport sur les banlieues, qui faisait état de un constat que énormément d'argent public, des collectivités, de l'État, de l'éducation nationale, était alloué sur les quartiers prioritaires pour une efficacité relative, parce que chacun fonctionnait dans son coin, sans alliance, sans accord. D'accord. Donc les cités éducatives, c'est un budget unique.
Oui, mais c'est quoi comme structure ? C'est un EPCI ? C'est parce que...
Ah non, ce n'est pas une structure, comme c'est une expérimentation sur 3 ans.
D'accord, il n'y a pas de structure derrière.
Voilà.
Mais le budget, il est donné à qui ?
On a un budget alloué par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et ce budget est géré par
les services de la préfecture ?
Les services de la préfecture, d'accord, l'éducation nationale et la ville de Toulouse. Et donc, pour mettre en œuvre ce plan d'action, il y a 2 responsables, un pour l'éducation nationale, un pour la mairie, qui doivent fonctionner de concert tout le temps, ensemble. Et ça, c'est d'accord, une grande innovation, faire fonctionner des grands corps d'État ensemble, en cohérence, et pas en concurrence. Donc c'est vraiment d'accord, dans cet esprit-là que l'on travaille en permanence. Ce n'est pas simple. Ouais.
Et ça pourrait pas fonctionner, sans penser au style éducatif, ça pourrait pas fonctionner partout comme ça.
Mais je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Moi, je suis étonné qu'on invente des concepts alors que ça pourrait le faire partout, quoi.
Eh bien, et c'est pour ça d'ailleurs, je vais rebondir, que devant les expériences, donc il y a la cité éducative du Grand Mirail, depuis la rentrée le Nord, la vache Lisère 3 Cocu, où on a un projet lecture fort aussi, et puis depuis un mois, Colomiers, qui a une cité éducative aussi, a été labellisée cité éducative sur un territoire plus restreint, mais d'ailleurs auquel j'ai été associée, j'ai participé, j'ai apporté un appui technique.
Donc ça fait des petits, en fait, vous êtes en train de nous dire.
Comment ?
Ça fait des petits, en fait.
Ça a fait des petits.
Vous voulez pas venir en Lozère ?
Alors,
on veut bien faire partie du nord-est. Alors, si vous pouvez nous absorber.
À l'état actuel, il y a 200 cités éducatives sur le territoire.
D'accord.
Donc depuis un mois, on est 200 cités éducatives. Alors en Lozère, pour mémoire, pour l'instant, il n'y en a pas. Je sais qu'il y en a une à Limoges. Il y a des très très petits territoires,
d'accord,
des petits territoires de cités éducatives, comme Colomiers, c'est 2 collèges. Et les écoles de secteur, on est dans un champ.
Alors, madame Kluskar voulait vous répondre, je crois. juste enfin, ou abonder.
Voilà, vous demandez pourquoi est-ce qu'on met en place ces dispositifs-là. C'est que quand même, les gens ils travaillent pas bénévolement. Alors il y a des bénévoles dans les associations, mais quand on est par exemple responsable de collège, d'un établissement scolaire, il faut dégager du temps pour travailler en partenariat avec la collectivité territoriale, avec les autres partenaires associatifs qui peuvent intervenir sur le territoire. Et ça s'organise. Nous, on a répondu à un appel à projet national parce que ce travail de partenariat, ça veut dire de la coordination, ça veut dire du temps dégagé pour les professionnels. Par exemple, l'éducation nationale va dédier du temps spécifique pour les chefs d'établissement pour pouvoir travailler dans le cadre de la cité éducative. Nous-mêmes, avec ce budget qui est alloué dans le cadre de la cité éducative, nous allons pouvoir recruter un coordinateur de projet qui va pouvoir travailler les synergies des actions et le déroulé du plan d'action. Parce qu'effectivement, l'argent est libéré une fois que les actions sont mises en place, sont mises en route. Voilà, et que c'est une réalité aujourd'hui, l'État finance des projets objectivés. Il faut prouver ce qu'on va mettre en place, il faut prouver qu'on l'a bien mis en place.
La fameuse CPO, vous savez, la fameuse CPO. Oui.
Oui. Tout ça est intéressant parce qu'on se rend compte que on traite désormais des problématiques de territoire en ayant des réponses de territoire. Et en ayant des réponses qui associent les différents partenaires au niveau des collectivités et au niveau des services de l'État. Et on arrive à faire de l'horizontalité et c'est bien. Sur le champ de la culture, on est très intéressé aujourd'hui par la problématique des droits culturels des personnes, c'est-à-dire par l'implication des personnes elles-mêmes dans leur destin culturel, dans leur vie culturelle. Comment dans une politique culturelle on associe les gens et comment on les associe, y compris à la définition de certains projets et de la définition jusqu'à l'évaluation. Comment on nourrit le projet de ce qu'est le projet des habitants. Comment on travaille au-delà de l'appropriation, parce qu'on sait, quand on a cette injonction démocratique qui est l'injonction qui est toujours présente pour les mouvements d'éducation populaire, on sait à quel point c'est important qu'il y ait une véritable appropriation. On fait pas de saupoudrage, on fait pas de choses. Comme il est important dans ce cadre-là, quand on développe des actions culturelles ou quand on développe des actions culturelles plus particulièrement sur la lecture, mais plus généralement aussi, comme il est important d'aller au-delà de la mise en relation de l'horizontalité entre les collectivités et les services de l'État pour aller avec la société civile, pour intégrer la société civile et pour intégrer les corps intermédiaires qui ont été tellement fragilisés et mis à mal, pour intégrer les têtes de réseau, pour intégrer les associations locales. Et pour moi, il y a une contradiction souvent, justement, dans ce que vous disiez. J'entendais, on a répondu à l'appel à projet, et il a fallu rentrer dedans. Très souvent, enfin, pour nous, mouvement d'éducation populaire, c'est toujours très compliqué. Cette idée que finalement la loi sur l'ESS, qui déterminait que le mode de privilégié de subvention de financement de l'association, c'est la subvention. La loi Hamon le disait, le circulaire Valls l'avait entériné aussi, que cette loi n'est pas appliquée du tout et que de plus en plus on va vers un mode de financement qui est l'appel à projet, et que l'appel à projet finalement nous prive de la capacité d'initiative des associations, la capacité d'innovation des associations.
Et puis il met en compétition.
Et met en compétition les acteurs d'un même territoire, là où il faudrait justement travailler cette horizontalité. Et donc là-dessus, on a un thème de réflexion à avoir et qu'il faut porter politiquement.
Ou si le portage est partagé entre des collectivités et des associations sur le territoire.
Mais ça peut s'envisager. C'est bien ce que je saluais tout à l'heure. C'est bien ce que je saluais tout à l'heure. Bravo de le faire. Et c'est, mais hélas, ça n'est pas si fréquent.
C'est très rare.
Et là, ça n'est pas si fréquent. Et c'est vrai que c'est un cheval de bataille aujourd'hui de tout le secteur associatif. Cette idée que, notre société s'ampute de quelque chose qui est important dans la capacité d'initiative du monde associatif. C'est la création, par exemple, des bibliobus. C'est 1937, c'est la Ligue de l'enseignement.
Les écoles de musique.
En 1981, c'est devenu une politique publique. Mais les cette politique itinérant. Publique, elle est née de ça. C'est un exemple.
Alors pour rebondir
sur. Ça aurait été dommage de s'en priver parce que l'expertise les élus, ils ont toute légitimité à déterminer une politique, hein. Mais leur expertise d'élus n'est pas l'expertise de terrain du monde associatif, et c'est tellement complémentaire si on veut servir ensemble le bien commun.
Alors ça tombe bien, c'est un peu la transition avec ce que je voulais vous poser comme question, hein, à tous. C'est vrai que ce dont parle aujourd'hui Hélène, c'est une vraie remise en question du rôle de l'association qui, dans son objet social, quand elle se crée, donc là c'est lire et faire lire, d'apporter la lecture plaisir, lecture loisir, découverte un peu partout, comment ces structures associatives peuvent répondre à des appels à projets, bon, qui les mettent souvent en compétition, hein, sur des territoires. C'est devenu compliqué, on va demander à des bénévoles en plus de faire de la coordination, de la gestion de projet, d'équipement, de matériel, donc ça c'est un vrai problème. Comment aujourd'hui aussi, vous en charge de ces questions-là, vous veillez à ce qu'on n'institutionnalise pas trop tout ça? Parce qu'en fait, moi depuis mes 30 dernières années, où j'œuvre à la Ligue de l'enseignement et dans plein de domaines, chaque fois qu'on a créé des objets nouveaux, des expérimentations nouvelles, alors on nous a jamais aidé pour les expérimentations, ou très très peu, c'est vraiment à la marge, on a institutionnalisé quand ça a marché. Donc alors c'est pas la vocation de la Ligue ou de ces structures de garder des associations ou des concepts, c'est bien de les faire vivre et qu'après elles trouvent des financements qui soient pérennes, alors repris par les collectivités, par des structures, des EPCI, etc. Mais comment on favorise l'expérimentation? Je crois que la vraie question en France aujourd'hui, alors vous en parlez sur cette expérimentation de la cité, c'est très très intéressant, mais comment des associations comme ça, des bénévoles, trouvent leur place au sein? Et comment vous êtes alerte pour qu'elles restent toujours en éveil? Parce qu'en fait, la réflexion, alors c'est pas de l'ingénierie, c'est de l'expérimentation, c'est du don, c'est tout ça. Comment ça, en France, c'est en train de disparaître quand même, hein? On voit bien qu'à la Ligue, il y avait 40 000 associations, 3 millions d'adhérents. On est passé à 20 000 associations, 1,5 million d'adhérents. C'est en train un petit peu partout de se disloquer. C'est complexe aujourd'hui de gérer une association. Comment vous en tant qu'élu, vous en tant que responsable de la cité éducative, comment vous veillez à ça et à ces expérimentations? Alors peut-être Madame Fassou avant.
Oui, alors concernant les deux cités éducatives, pour nous, il y a un plan d'action qui a été écrit en partant d'un diagnostic de territoire, en étant très concret, en travaillant en concertation avec tous les partenaires associatifs, tous les partenaires de l'éducation nationale, les directions de territoire. Donc on a élaboré ensemble ce plan d'action. Donc c'est déjà un plan d'action concerté où on a associé un maximum d'associations. Alors sur le Grand Mirail, on a comme partenaire à peu près 160 structures partenaires, ce qui est très très important. Alors peut-être certaines, je n'étais pas là au début de l'élaboration, ont été oubliées, mais on essaie d'être dans cette ouverture. Depuis que les cités éducatives sont parties, c'est justement le travail des deux coordonnateurs, c'est d'être en permanence, essayer de rentrer en contact avec les associations et pas, on le sait, sur les territoires, il y a des associations reconnues qui sont systématiquement sollicitées, et moi, l'esprit, la philosophie des deux cités éducatives, c'est de travailler avec des associations atypiques qui sont moins connues, mais qui ont des propositions parfois différentes, et de ne pas travailler avec forcément les structures qui sont sollicitées systématiquement. Alors, c'est pas, ça peut apporter des grincements, des résistances, parce que les structures reconnues sont toujours dans cette optique-là, veulent continuer à travailler. On essaie de travailler, mais c'est aussi donner une perspective à des associations, des structures qui ont des projets moins à lumière, mais plus originaux. Pour vous donner un ordre d'idée, ce n'est pas les lectures, mais là, sur la Cité Nord, on vient de découvrir une association qui travaille sur le bricolage, la fabrication, l'objet fait. C'est une association très discrète et on a décidé de les faire travailler parce qu'on est dans le faire, dans le fabriquer et que c'est important. Alors je précise, hein, les cités éducatives, c'est la prise en charge globale du jeune dans le temps scolaire et périscolaire de 0 à 25 ans. Il y a aussi la part insertion professionnelle 16-25 ans. Et justement, on est dans le faire, le fabriquer et c'est important pour des enfants, pour des gamins, d'être dans le faire et le fabriquer. Donc c'est une association très on va dire très discrète et mais c'est notre travail, notre quotidien d'essayer d'expérimenter des façons de fonctionner, des structures nouvelles et pas forcément que des structures reconnues sur les territoires qui fonctionnent depuis 20-25 ans par exemple sur le territoire du Grand Mirail. Sur le nord, on est dans des optiques différentes parce que c'est un territoire qui a un peu de maillage associatif, hein, puisque c'est une nouvelle ville, Bordeaux Rouge, etc. Il y a une évolution démographique perpétuelle, donc il y a peu de maillage et c'est notre travail aussi d'essayer de trouver, d'imaginer des fonctionnements et de faire aussi travailler ensemble. Ça peut être aussi, par exemple, un éducateur de la PJJ, un éducateur de l'accueil jeune, qui va travailler avec une association. Et chacun ne travaille pas pour le suivi du jeune, chacun ne travaille pas de son côté. L'éducateur d'un accueil jeune s'occupe du jeune, mais il a besoin aussi d'un regard extérieur. Il a besoin de l'école et de bien connaître l'école. Donc mon travail, c'est de mettre en relation avec l'école, avec le chef d'établissement, avec les enseignants, pour imaginer une prise en charge globale. C'est aussi de le mettre en liaison avec une structure associative. Par exemple, un autre exemple, on a une société de mycologie qui travaille sur les champignons, les insectes. C'est une dame à la retraite qui est passionnée par ce qu'elle fait et je l'ai rencontrée et son travail me semble intéressant d'organiser par exemple des promenades en forêt avec des enfants, avec les mamans pour découvrir les champignons, les insectes et donc j'ai décidé de les mettre en liaison, de les mettre en commun avec des associations où les mamans partiront le samedi matin pour aller se promener en forêt, travailler.
D'accord, donc c'est aussi, c'est facilitateur en fait, c'est de mettre en relation et de... Oui. Peut-être, Madame Kouskar, vous vouliez, sur la question précédente, apporter un...
Sur les associations, c'est... Alors, moi, j'ai un collègue élu qui est en charge des relations avec le monde associatif. Madeleine parlait des assises des associations qui ont lieu de façon annuelle. Il y a une charte des associations qui a été élaborée, parce que quand on est une association, on va aussi chercher des moyens. Ça veut dire que la collectivité subventionne les associations, mais en complémentaire. En retour, il faut qu'on ait une charte, une identification. Vous parliez de laïcité, par exemple, quand on intervient auprès de publics dans le temps scolaire, dans le temps péri ou extrascolaire, bon, mais ça veut dire qu'il faut quand même apporter une garantie. Ouais. Donc, on a travaillé autour d'une charte pour pouvoir fonctionner en confiance. Si les bénévoles arrivent avec leur savoir-être, il faut aussi qu'elles arrivent avec des valeurs, un engagement auprès de la structure qui va les recevoir, du collectif des enfants. Voilà, ça c'est les garanties. Ensuite, bon, mais c'est la richesse d'un territoire. C'est comment est-ce qu'on connaît la richesse d'un territoire? Comment on est au plus près des associations. C'est vrai qu'il y a des leviers. Alors nous, on a beaucoup travaillé avec le projet éducatif de territoire. On organise un forum des associations pour que des initiatives de terrain émergent avec des rencontres d'associations du territoire et les écoles, les responsables de structures sur le péril extrascolaire, les maisons citoyennes, pour monter des projets qui seront ensuite bien financés. Et on a créé une enveloppe spécifique pour que les objectifs politiques rencontrent des envies du territoire, des bénévoles et des responsables de structures. Et on essaie de mettre tout ça, pas en concurrence, mais en complémentarité.
Et pour rebondir sur ce que Madame Kouskar vient de dire, je trouve que ce qui est une des forces du réseau de Lire et Faire Lire, c'est cet ancrage territorial et cette connaissance des territoires grâce aux coordinations départementales et au rôle des coordinateurs, coordinatrices de la Ligue de l'Enseignement et des UDAF qui connaissent parfaitement les différents interlocuteurs, les territoires sur lesquels les bénévoles vont intervenir, vont pouvoir s'insérer dans les dispositifs qui vont permettre une place place aux bénévoles et aux lectures de Lire et Faire Lire. Et cette organisation aussi en équipe départementale et avec comme Madeleine aujourd'hui notre exemple, mais il y en a beaucoup aussi qui étaient là aujourd'hui, des bénévoles relais des différents départements représentés. Donc tous ces acteurs aussi à des niveaux d'interlocution différents, c'est-à-dire que on a le coordinateur départemental qui est vraiment garant du portage du programme et qui va être dans la discussion, peut-être dans la formalisation des échanges et dans la mise en place du partenariat avec Lire et Faire Lire. Mais on sait aussi très bien que les bénévoles relais ont un rôle de plus en plus important et l'équipe départementale de manière générale a un rôle super important dans justement cette connaissance du territoire. Ça va dans un sens, ça va du territoire à la coordination, de la coordination à la commune, et c'est ce va-et-vient de discussion entre ces différents niveaux d'interlocution qui fait que le bénévole trouve sa place dans la structure auprès des enfants avec comme médiateur, objet médiateur, le livre.
Très bien, ce serait quoi le conseil que vous pourriez donner aux autres élus de la France? Parce que moi, j'aimerais bien vous transplanter en Lozère, en fait, directement dans tous les bleds.
Non, je me permettrai pas de donner des conseils. Je crois qu'il y a des envies qui se rencontrent, il y a des objectifs qui se rencontrent aussi. Voilà.
Est-ce que c'est pas un problème de lecture, en fait? De lecture de territoire? Non, mais c'est un jeu de mots, mais en même temps, sans vraiment en être un, parce que depuis tout à l'heure, en fait, on parle de lecture. Même façon, vous me parlez de la lecture que vous avez fait, des diagnostics. Vous me parlez aussi des lectures que vous faites de vos populations, des citoyens, des manques, des besoins, des relations.
Tout à fait.
Quand on est élu municipal, c'est qu'on est élu d'un territoire et qu'on est désigné aussi par le citoyen. Ça veut dire que quand même, on a un engagement normalement issu du territoire. Bon, à Coulommiers, on a la chance d'avoir une ville urbaine avec des fondamentaux sociaux importants et une richesse d'associations qui a fait le terreau de la ville. Et c'est aussi le dynamisme des habitants qui crée aussi les dynamiques municipales. Enfin, je crois qu'à un moment donné, c'est aussi plus facile quand on a des citoyens qui sont impliqués, exigeants aussi du coup, et qu'on a aussi pris l'engagement et bien d'accueillir des populations. On n'est pas Neuilly-sur-Seine, voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on a envie de travailler avec tout le monde et d'accueillir. C'est Coulommiers, terre d'accueil et terre d'envol.
En fait, c'est une question de créer les conditions pour un élu de bien vivre sur son territoire. Alors, est-ce que le fait de développer un axe autour du livre et de la lecture, ça aide à bien vivre sur un territoire? Alors, qui a répondu oui?
Forcément.
Madeleine, viens là. Oui, c'est sorti du cœur. Ouais.
Oui, c'est bon, oui, bien sûr. De toute façon, il faut en être, on en est convaincu. On en est convaincu quand on est bénévole, on en est convaincu quand on est acteur de l'éducation, acteur du loisir. Parce que tout ça, c'est du plaisir, c'est du bien-être. C'est, vous l'avez dit dans votre introduction, tous les qualificatifs qu'on peut associer à la lecture, sont autant d'atouts pour devenir citoyen et être bien dans sa vie. La réussite qu'on peut avoir, l'ensemble des partenaires éducatifs, c'est d'avoir des enfants, des jeunes qui soient bien dans leur peau, qui aient une ouverture dans leur avenir et qui pourront aussi être des citoyens actifs et acteurs. Donc, c'est pas être dans la performance, c'est être dans l'action et le plaisir.
C'est de l'investissement, en fait.
Et la lecture, c'est ça.
C'est ça, c'est de l'investissement. De mettre de l'argent public sur le livre et la lecture aujourd'hui, c'est de l'investissement.
C'est de comme quand on investit dans l'éducation. Alors moi, je suis pas convaincue, j'en suis plus que convaincue. Voilà, on le met en œuvre. Je pense que c'est le levier pour faire société. Vous parlez d'école de la République. Pour faire société, il faut une école de la République. Il faut des valeurs communes. Il faut un bagage culturel commun. Il faut avoir des envies.
Vous êtes la petite fille spirituelle de Jean Massé, madame. Vous le savez, ça? Madeleine, je vais te trouver une nouvelle bénévole, lire et faire lire, en fait. T'en as deux bénévoles supplémentaires. Dominique, peut-être?
Je rajouterais aussi qu'il y a un axe fort, ce sont les parents, la parentalité. C'est dans toutes les actions imaginées, c'est les associer systématiquement. Et dès que l'enfant a 3-4 ans, imaginer des actions avec les parents, les associer, que les mamans, les papas lisent des histoires à leur enfant, lisent ensemble, c'est fondamental pour la structuration de l'enfant. Et voilà, c'est cet axe de travail que nous souhaitons développer. La parentalité, vraiment, c'est la base aussi pour la prise en charge des enfants.
Cécile, oui.
Oui, et c'est vrai que sur cet axe du lien jusqu'aux parents, parce qu'on a parlé lien des bénévoles avec les professionnels et dans les structures dans lesquelles ils interviennent, mais on essaye aussi d'aller plus loin et de sortir du cadre de la séance de lecture et de faire en sorte que ce qui se passe dans cette séance de lecture aille jusqu'aux parents, et même maintenant aussi on en parlait tout à l'heure, de faire venir parfois les parents dans certaines séances de lecture. Alors c'est vrai que c'est un exercice plus différent et certains bénévoles sont plus ou moins à l'aise avec ça, mais il y en a quand même beaucoup qui ont des retours très positifs sur ça et qui se sentent à l'aise dans cette nouvelle forme d'intervention où c'est la même chose, sauf qu'il y a les parents qui assistent à cette lecture, et puis après il y a un temps d'échange sur les livres, qu'est-ce que l'enfant aime lire avec son parents, qu'est-ce qu'il aime lire avec le bénévole, et comment on peut créer des liens, comment on peut créer une bibliothèque intérieure, comme on l'a entendu ce matin, comment on peut vraiment inscrire en fait le livre dans un continuum en fait, et éviter de cloisonner les différents temps de l'enfance et de faire du lien pour que ça fasse encore plus sens, comme on le montre dans la construction des projets, que ça fasse du sens autour du projet, mais que ça fasse aussi du sens autour de l'enfant. Et par rapport à ta question, j'aurais voulu aussi rajouter que ce qui me semble important, et on l'a évoqué tout à l'heure avec les accueils de loisirs et les animateurs, c'est cette connaissance aussi des projets et de la spécificité que chacun peut apporter sur le projet. C'est souvent aussi des choses qui coincent et qui se décoincent très rapidement quand on se rencontre, quand on parle de pourquoi moi je suis là en tant que bénévole, en tant que coordinateur, en tant qu'animateur, qu'est-ce que je vais apporter par rapport au projet autour du livre, et comment ça va être complémentaire chacun dans notre posture, notre expérience et notre singularité.
Merci Cécile. Monsieur Armani.
Oui, juste pour compléter, parce qu'on échangeait aussi entre midi et deux, puis parce qu'on va bientôt entamer des expériences avec lire et faire lire, de lecture avec les parents. Nous, une question qui nous anime aussi, c'est de sortir de la lecture un peu et du livre stigmatisant qui peut envoyer à des carences scolaires ou à des difficultés d'insertion sociale. Nous, on ne souhaiterait pas que dans ces ateliers d'échange avec les parents, ce soient les mêmes parents qu'on retrouve dans d'autres assemblées représentatives. Donc, il faut calculer cette ouverture du bagage culturel au plus grand nombre. Comme pour les animateurs, si on veut qu'ils soient relais auprès des enfants, il faut qu'eux aussi soient dans une facilitation avec la lecture. Donc, nous, effectivement, si on se lance dans cette entreprise-là, il faudra qu'on puisse effectivement ouvrir le champ des possibles et accueillir des familles qui ne sont pas forcément facilitées avec le livre. Et ça, pour le coup, c'est un vrai challenge, une réflexion. Parce que la langue, parce que le bagage culturel, le niveau scolaire, et qu'il faudrait pas qu'en lançant ces expériences, on crée plus de stigmatisation que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut mener.
Alors, peut-être une intervention.
Non, je disais, vous, oui. Ah oui, moi, je suis Isabelle Frey, je suis présidente de la Ligue de l'enseignement 31 et secrétaire générale de Lire et faire lire 31. Donc, vous avez parlé de parentalité, mais vous parler en disant que les parents doivent lire les histoires, etc. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient en capacité. C'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est un peu redondant avec ce qu'ils viennent de se dire. Et moi, j'ai une expérience très simple. C'est que un jour, je suis intervenue sur une aire d'accueil des gens du voyage. Et on a proposé, on a dit, les livres, on va vous les laisser pour que vos parents puissent les lire. Et là, ha, 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 il faudrait encore qu'ils sachent lire. Voilà ce que m'ont répondu les enfants. Donc, il faut quand même pas partir du principe qu'on a que affaire à des parents qui sont en capacité de relire.
Alors, je suis tout à fait consciente parce que moi, merci, je suis sur le terrain en permanence, donc c'est des problématiques que je rencontre. Alors, justement, c'est d'où la nécessité d'avoir un bénévole. Alors, nous, on travaille avec Mais en perspective, bon, c'est la fève, ou lire et faire lire, pourquoi pas, puisque ça va être l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, et d'autres bénévoles, justement, pour associer les mamans, et c'est pas forcément les mamans ou les papas qui vont lire, mais les associer déjà, s'emparer de l'objet livre, travailler aussi sur l'oralité, on le voit beaucoup avec les enfants du voyage, remplacer ce moment de qui peut être lecture, mais imaginer une oralité à la place de la lecture, voilà, c'est des expériences comme ça, bien sûr que nous sommes tout à fait conscients de cette problématique, et il ne s'agit pas de stigmatiser les parents, hein, évidemment. D'accord.
Moi, je voulais juste vous dire que vous avez une association ici présente qui s'appelle Un fil à la page, qui fait un gros travail là-dessus. Et n'oubliez pas qu'il y a des livres sans texte. Voilà. Parce que franchement, on les oublie tellement souvent, et ce sont de super vecteurs. Un tout petit peu de musique, voilà. Ça fait du lien, c'est une première entrée. La maman peut prendre le livre, le lire avec ses enfants dans la langue qu'elle veut. Elle peut raconter ce qu'elle veut. Elle peut le lire aussi dans sa langue à d'autres enfants qui n'ont pas la même langue. C'est des outils de médiation, en fait. Ce qu'il faut, c'est l'apprendre et avoir les bons médiateurs pour le faire.
Et pardon, allez-y.
Je voulais rebondir parce que on a une école qui a fait tout un travail autour des langues, et un travail avec les enseignants et les personnels du périscolaire et des associations et les ressources du territoire, les parents, qui sont aussi les premiers éducateurs de leurs enfants, et pour faire découvrir les langues de chacun. Parce qu'on a plus de 5 nationalités différentes sur le territoire, et donc des parents qui ne sont pas francophones. Donc il y a l'insertion à l'école via le dispositif UPE2A, et ensuite il y a toutes ces ressources, l'oralité et un support, une image, et aussi l'oreille, la musicalité. Et comment on peut transmettre tout un tas de choses. On parlait de l'appréhension de la lecture, c'est aussi une ambiance, c'est aussi une intimité.
Oui, c'est l'univers, tout à fait. Ouais. Voilà.
Tout ça, sans forcément associer des mots. Il n'y a pas forcément de technicité, mais il y a bien la sensation qui permet aussi ensuite d'avoir envie d'aller vers le mot, vers la lecture proprement dite. Et ça, tous les parents... Tout le monde l'a dans son bagage, mais encore faut-il en avoir conscience et pouvoir le transmettre, que ce soit reconnu. Et donc ce travail-là avait permis de découvrir des richesses et d'avoir le plaisir d'écouter une histoire dans une autre langue et de comprendre quand même ce qui se passait.
Il existe aussi toutes les comptines chez Didier Jeunesse, hein, qui sont magnifiques.
Et on a aussi pas mal de retours de bénévoles qui de plus en plus aussi interviennent en binôme. Avec un parent qui va pouvoir lire, ou un adulte qui va être en binôme avec ce bénévole et qui va lire dans une langue différente. Les lectures bilingues, c'est de plus en plus aussi, on en entend beaucoup parler. Et c'est vrai que ça va dans le sens de ce que vous évoquez. Ça rend accessible, ça crée une musicalité, ça crée des passerelles, ça enrichit aussi la séance de lecture, ça enrichit l'intervention et l'engagement du bénévole. Donc tout le monde aussi est gagnant-gagnant dans cette façon de se réinventer aussi dans les intervention des bénévoles lire et faire lire. Et juste aussi, par rapport à ce qu'on se disait aussi, il y a les structures, la diversité, on en parlait avec Madeleine aussi pendant la pause déjeuner, la diversité des structures qui peuvent aussi donner de la place aux parents et à tous les acteurs, les grands frères, les grandes sœurs, enfin tous ceux qui sont proches des enfants à qui sont adressées les séances de lire et faire lire. Madeleine me citait le partenariat avec la librairie La Page. La préface, pardon, qui est et ça, on sait aussi que c'est un nouveau lieu qui peut être moins effrayant ou qui peut peut-être moins faire peur qu'une bibliothèque ou une médiathèque, où on sait que des fois il y a des réticences pour y rentrer. Donc ouvrir aussi tous ces lieux où le livre existe et avec la présence de la médiation du bénévole ou de la coordination lire et faire lire, qui fait qu'on emmène dans ce parcours de lecteur les enfants et les familles.
Alors il existe aussi un autre domaine auquel on pense pas, et qui s'adresse aussi à un langage, on va dire, très très large, et qui va, pour ceux qui parlent pas la même langue que nous, mais qui vont aussi pour ceux qui la parlent plus, et qu'on oublie, et puis ceux qui la parlent pas encore, les tout petits, s'appelle la langue des signes. Et ça, avec juste une formation de niveau 1, ce qu'on a fait avec Magali et des membres de la Ligue de l'enseignement sur la Lozère, ça a permis de déclencher énormément de choses. Avec très très peu de formation, finalement, on peut aussi communiquer et lire, enfin en tout cas, interpréter des livres ou démarrer justement une lecture avec le corps. Parce que ça, ce serait l'objet de plusieurs émissions, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est à chacun de s'approprier ça et qu'il n'y a pas une lecture. Il n'y a pas la lecture institutionnelle, il y a plein de lectures de plein de façons. Et quand on parlait d'expérimentation, c'est il faut que vous, chef de file de l'éducation nationale sur ces politiques de cité éducative, que vous, élus, que vous aussi, vous puissiez avoir à l'esprit que l'expérimentation, c'est essentiel et que c'est tout au long de la vie et tout le temps et qu'il y a sans arrêt des associations comme l'IRFLR qui peuvent aussi être là pour vous aider. Ou expérimenter. L'autre objet, c'est aussi de créer les conditions. On a parlé tout à l'heure ensemble de comment on essayait d'amener vers le bien-être du livre et de la lecture, et que ça passe aussi par, c'est pas en rentrant dans l'école et dans un coin où la porte s'ouvre sans arrêt qu'on fait de la lecture et qu'on transmet ce goût ou cette passion qu'on a. C'est aussi en créant les conditions minimales. Et souvent, c'est pas le cas. Et donc, il faut créer aussi les conditions. Donc là, c'est aux collectivités, bien sûr, de créer des petits espaces où dire quand on réaménage une école, une bibliothèque, parce que souvent on va dans des bibliothèques, mais il n'y a même pas la place de poser un tapis pour lire. Et des fois, on se dit, mais il suffirait de pas grand chose, en fait. Donc on pousse les meubles, puis après on les remet. Mais des fois, c'est de le créer quand on bâtit. Voilà. C'est plein de réflexions. On arrive au terme de cette émission. Alors je vous remercie de votre participation. C'était vraiment très, très riche. Et je vais laisser le mot de la fin à Hélène Lacassagne.
Tout ce qui a nourri les échanges de ces deux journées et de cette table ronde nous ramène à l'idée que les enfants ont besoin des histoires et qu'ils ont besoin de la lecture pour se situer dans le monde, pour être des citoyens à part entière. Ils ont besoin des histoires, ils ont besoin de la poésie, ils ont besoin que leurs imaginaires soient nourris et qu'ils s'envolent en toute liberté vers ce que les enfants choisissent eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour faire en sorte qu'ils pensent la même chose que nous. Nous sommes là pour faire en sorte qu'ils pensent par eux-mêmes. C'est pas plus mal. Pour faire société, comme vous disiez tout à l'heure. Je voulais vous offrir pour finir un petit poème de Karl Norak, dont je trouve qu'il dit bien ce que nous faisons ensemble. Un poème, parfois, ça n'est pas grand-chose. Un insecte sur ta peau, dont tu écoutes la musique des pattes. La sirène d'un bateau suivi par des oiseaux ou un pli de vagues. Un arbre un peu tordu qui parle pourtant du soleil. Ou, souviens-toi, ces mots tracés sur les murs de la rue. Sois libre et ne te tais pas. Voilà. Il dit aussi, j'ai attrapé la poésie, cet espoir virulent. Et je trouve que dans la période que nous traversons aujourd'hui, peut-être que c'est bien qu'on remercie tous ceux qui concourent à leur faire attraper la poésie à nos enfants. Merci beaucoup aux bénévoles de Lire et Faire Lire et merci beaucoup à vous, les représentants de tout, enfin, de la communauté éducative, toute rassemblée, qui se met au service de ça. Voilà, merci à vous.
Merci à tous. Voilà, on termine cette émission. On vous souhaite un bon retour et puis voilà, on espère que ça va faire des petits dans vos têtes et dans les livres.
Merci.